Il y a 7 ans, le mouvement des Gilets jaunes provoquait une onde de choc dans la vie politique française. Un mouvement historique, sans doute le plus important en France depuis 1968, qui a su réunir des millions de citoyens au-delà de tous les clivages traditionnels et qui aura, pendant de longues semaines, fait trembler le pouvoir. Souvent caricaturé, sali, par une presse aux ordres et par des classes dominantes accrochées à leurs privilèges, les Gilets jaunes auront tenu pendant des mois, malgré une répression policière et judiciaire inégalée. Ce mouvement aura laissé des traces, et aujourd'hui, malgré le temps passé, les plaies ne sont pas toutes refermées. Mon invitée d'aujourd'hui est une réalisatrice indépendante. Elle s'appelle Léna Ishkanian, elle a 24 ans. En 2018, elle se sentait loin de tout ça, peut-être même indifférente, mais avec le temps, elle aussi a été touchée par la colère sociale en France. Elle a pris sa caméra pour aller comprendre ce qu'elle avait raté, mais surtout pour prendre le pouls actuel du pays. Elle signe un documentaire poignant qui donne la parole à ceux qu'on a voulu faire taire, mais qui ont encore des choses à dire. Bonjour Léna.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous.
Merci pour l'invitation.
Alors, première question, je vais faire très simple. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, 7 ans après, de revenir sur le mouvement des Gilets jaunes? Qu'est-ce qui a été le déclic pour faire ce film?
Je pense qu'il n'y a pas vraiment eu de déclic en soi. C'est vraiment le climat actuel politique qui est très anxiogène pour, je pense, plein de jeunes et pour moi, jeune femme de 24 ans. En fait, à l'époque, j'ai rien compris à ce qui se passait. Ma mère allait un peu sur les ronds-points de temps en temps apporter de l'aide, mais j'ai toujours vu ça de très loin. Et au fur et à mesure que je m'intéresse à la politique, à l'actualité, etc., j'ai très vite compris qu'en fait, ce mouvement était très puissant, inédit, qu'il avait réussi à rassembler des personnes très différentes. Et je l'ai trouvé... En fait, je me suis dit... J'ai très vite regretté de ne pas avoir été sur les ronds-points, de ne pas avoir documenté tout ce qui s'était passé. Et j'ai trouvé le mouvement d'une grande beauté, en fait. Et donc...
Vous étiez lycéenne à
Oui, j'étais lycéenne à l'époque.
Jeune.
Donc, jeune. Je pense que le fait d'avoir fait ce film, c'était un peu ma manière à moi de hurler.
Contre quoi?
Contre quoi? Contre ma... Je pense que j'avais besoin de tendre le micro à ces gens-là, parce que j'ai l'impression qu'on ne s'écoute pas, qu'on n'écoute plus personne, que le débat est complètement rompu. Et moi, ça me fait vraiment peur, dans le sens où, autour de moi, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui ont, par exemple, pas envie de discuter avec des gens de droite. Et moi, je trouve ça effrayant. Parce que pour moi, pour sortir de situations délicates ou juste pour élever le débat, il va falloir qu'on parle, il va falloir qu'on s'asseye. On s'asseye tous à la même table pour discuter. Et j'ai l'impression qu'il y a une polarisation des opinions, des débats, et je le vois autour de moi et je suis effrayée. Et je ressens beaucoup la colère qui monte de partout, que ce soit chez mes amis, ma famille, dans tous les milieux possibles que je côtoie. Et du coup, j'avais envie de documenter ça. Bien plus que de faire un film vraiment sur des idées politiques, très théoriques, je voulais juste aller documenter ces émotions-là et aller montrer ce que vraiment les gens ressentent. Je trouvais ça très important et je pense qu'on ne le fait pas assez, en fait.
Alors, c'est intéressant parce que vous dites qu'on ne se parle plus, c'est très juste, et qu'il y a une polarisation en général dans la vie politique française. Et ce qu'on peut dire, c'est que les médias, en particulier les médias mainstream, ils favorisent totalement cette polarisation. Mmh. Au moment des Gilets jaunes, bon, je suis bien placé pour en parler, il y avait un décalage énorme entre le discours médiatique, c'était la poubelle qui brûle, les Gilets jaunes, c'était des antisémites, des homophobes, des racistes,
fachos.
Enfin des fachos, voilà. Et puis, il y avait ce que moi, je voyais sur les ronds-points à l'époque. Mmh. Alors, qu'est-ce que vous avez vu dans le documentaire, du coup, ce décalage entre ce que disaient les médias à l'époque et ce que vous avez vu sur le terrain?
Alors moi, j'ai vu des gens très différents des uns des autres. J'ai surtout vu des gens qui voulaient, comme je disais, discuter. Alors, effectivement, je n'ai pas rencontré de fachos, d'antisémites, évidemment. Et je pense que les gilets jaunes que j'ai interviewés, ils ont beaucoup souffert du traitement médiatique qui a été fait sur les gilets jaunes. Ils avaient une certaine méfiance au début, quand je cherchais des gens à interviewer. J'ai ramé au début pour trouver des gilets jaunes qui acceptaient de prendre la parole parce qu'ils ont été salis, entre guillemets. Ils ont été salis et ils n'ont plus confiance. Et donc, j'ai dû un peu montrer patte blanche, montrer que j'étais indépendante, que j'avais de bonnes volontés et que je voulais juste tendre la parole. Je voulais juste tendre le micro et sans les diriger, sans les critiquer ou quoi que ce soit, de manière très sincère. Et je crois que dans le film, on le ressent assez, cette sincérité, que ce soit dans tous les témoignages. J'ai vraiment essayé de leur donner le plus d'espace possible pour qu'ils puissent s'exprimer. Et c'était des moments, je dirais, très puissants. Ils ne voulaient pas lâcher le micro, en fait. Ils ne voulaient pas rendre le micro. Ils avaient tellement de choses à dire, tous, que c'était des moments très forts. Et on est parti à quatre jeunes. On était quatre jeunes. Des jeunes professionnels du cinéma. J'étais donc avec trois amis à moi et j'étais plus ou moins la seule sensible à ces questions-là. Et en fait, on est rentrés tous les quatre complètement bouleversés de ce qu'on venait de vivre. Bouleversés de tous ces récits, de tous ces gens qui souffrent. C'était des moments, comme je l'ai dit, très puissants, mais parce qu'ils se livraient vraiment et ils voyaient qu'en face, on recevait tout ce qu'ils avaient à nous dire. Et les gars avec qui je suis partie m'ont dit « Mais c'était la meilleure expérience de ma vie, en fait. » Et heureusement qu'on est allé sur le terrain, qu'on a rencontré ces gens-là. Pour moi, c'est tellement important de faire cette démarche, d'aller rencontrer les gens. Et effectivement, pour revenir au traitement médiatique, ils en ont beaucoup souffert. Et c'était dur de gagner leur confiance. Et à raison, d'ailleurs.
Oui, bah ça me parle beaucoup, ça résonne pas mal, parce que moi aussi, j'ai été extrêmement touché et ému quand j'étais sur les ronds-points. Oui. Du coup, et notamment, moi, ce qui m'avait touché, évidemment, c'est la galère pour plein de gens, la misère pour d'autres. C'est ce que vous montrez dans votre documentaire. Oui. Des gens qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Il y en a qui dorment dans leur voiture. Oui. Moi, ce qui m'avait touché, c'est ils se plaignent pas. C'est-à-dire que moi, la phrase qui me tuait à chaque fois, vraiment, je ne savais plus où mettre, c'était mais on n'est pas les plus à plaindre. Que vraiment, bon, c'était ça, à chaque fois, ouais, c'était je ne savais plus où me mettre. Vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué par rapport à cette galère du quotidien des gens?
Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de résilience. Beaucoup de résilience et en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont injustes dans la vie politique. En ce moment, j'ai l'impression que c'est complètement une télé-réalité, tout ce qui se passe. On dirait un mauvais film, quoi. Et je pense qu'ils sont désemparés, qu'on est tous désemparés, en fait. Et effectivement, il y a beaucoup de misère, ça se ressent. Et nous, c'était important pour nous d'aller voir tout le monde. On a des gens, effectivement, on a interviewé Alessandro qui vit dans sa voiture depuis quelques mois. Et on allait interviewer d'autres personnes qui ont un peu plus de moyens et qui souffrent moins, mais qui sentent quand même qu'il y a quelque chose qui se passe, que c'est pas normal, et qu'on doit agir, qu'on doit se mobiliser, qu'on doit se soulever tous ensemble. Donc, tous ces témoignages, ils m'ont beaucoup marqué parce qu'ils étaient, au final, très différents. Et en même temps, il y avait un point de convergence entre tous ces gens, c'est cette colère. Et moi, ce film, je l'ai fait parce que je me pose depuis des mois cette question de... Aujourd'hui, il y a une colère à peu près chez tous les Français, pour des raisons ou d'autres. Une colère plus ou moins universelle. Et on n'arrive pas à se lever tous ensemble. On n'arrive pas à se mobiliser. On est complètement divisé pour de multiples raisons. Mais moi, c'est ça que je voulais documenter et qui m'a beaucoup intéressée. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'avoir des profils très différents et partout en France. On n'a pas fait que Paris ou que la région Rhône-Alpes d'où je viens. On est allé en Bourgogne, on est allé évidemment en périphérie de Paris, on est allé dans le Tarn, on est allé près de Nancy. Enfin, on est allé voir des gens très différents et c'était important pour moi de les rencontrer, d'aller chez eux, d'aller sur le terrain.
Oui, alors vous avez parlé de la colère, évidemment. Mmh. Et c'est vrai que le mouvement des Gilets jaunes, au début, c'était la taxe sur le carburant qui a mis le feu aux poudres. Mais évidemment, très vite, on a bien compris que c'était une soif de respect, de dignité qui était réclamée par les Gilets jaunes. Mmh. Et vous avez parlé là du cirque politico-médiatique auquel on assiste. Je pense qu'en fait, maintenant, le mépris et la demande de dignité, de respect, c'est peut-être étendu aujourd'hui à beaucoup de classes sociales dans le pays. Parce que ça devient, je veux dire, consternant, ce à quoi on assiste. Et on a vraiment l'impression d'une petite caste déconnectée qui n'écoute absolument pas les aspirations populaires des gens, les classes moyennes, bon, qui voudraient bien que quand même ces gens-là qu'on rémunère travaillent pour nous, en fait, tout simplement.
Ce serait le minimum. Ouais. Ce serait le minimum. Effectivement, je pense que... tous souffrent de ce mépris qui a été un peu... ils sont déjà un peu conditionnés à vivre avec ça, en fait, j'ai l'impression. Et je pense que ça vient de là, cette résilience aussi. Et je pense que ça vient aussi... Moi qui viens de Saint-Étienne, donc une ville qu'on critique beaucoup, qui est aussi... il y a beaucoup de misère à Saint-Étienne. C'est une ville grise et poussiéreuse. Donc je viens, moi, de ces villes-là qui ont été plus ou moins mises de côté, qu'on a plus ou moins abandonnées. Et on ressent vraiment une fracture territoriale, je dirais, entre Paris et le reste de la France. Et j'ai l'impression que... Bon, je ne vise pas forcément les Parisiens en tant que tels, mais ces élites qui sont toujours... j'ai l'impression qu'ils sortent jamais de Paris. Ils ont l'impression que Paris, c'est la France. Mais attendez, Paris, c'est pas la France. Il y a une telle richesse hors de Paris. Il faut aller la documenter. Et c'est pour ça que j'ai voulu avoir des gens de partout en France. Et effectivement, ce mépris-là, il est palpable.
C'est intéressant parce que vous avez parlé de mépris intériorisé. Mmh. Et... moi, j'ai une anecdote à ce sujet parce que, évidemment, moi, j'étais avocat, donc j'avais un statut social, etc. Et bon, il se trouve que les Gilets jaunes qui m'avaient mandaté, ils m'avaient demandé de mettre le gilet quand j'allais sur les plateaux. Et l'un de mes premiers plateaux que je fais sur BFM TV, quand je suis dans le sas d'attente, je vais croiser des journalistes dont je tairai le nom, très connus. Et du coup, moi qui ai toujours eu l'habitude d'être traité avec égard, respect, et qu'on m'appelle maître même dans les palais, là, j'avais le gilet jaune. Et du coup, j'ai vu là, pour la première fois de ma vie, le changement du regard immédiat. C'est-à-dire qu'il y en a un qui ne m'a même pas dit bonjour, qui n'a même pas salué, et celui qui m'a serré la main, je sentais le dégoût quand il m'a serré la main. Et vraiment, faire cette expérience-là, c'était lunaire pour moi. Enfin, de me dire, je me rendais compte, ah oui, c'est ça, en fait, que beaucoup de gens vivent. Mmh. Et effectivement, on ne peut pas se rendre compte tant qu'on n'est pas dans cette position-là. Quoi.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. La division, ce mépris de classe, il est, comme je disais, il est palpable. Et le film s'appelle Fenwick par rapport à un événement que j'ai trouvé d'une grande beauté. C'était en janvier 2019. Des Gilets jaunes ont pris un Fenwick, un chariot élévateur, ils sont allés défoncer le bureau, enfin les portes du bureau du porte-parole du gouvernement qui était Benjamin Griveaux à l'époque.
C'était avant ces histoires contre.
C'était avant ces histoires. Et pour moi déjà, c'était très important de. Enfin, j'ai trouvé ça super cool de donner ce nom-là au film parce que c'était un moment, je trouve, grandiose pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que ils ont pris un outil ouvrier pour défoncer ces portes d'un lieu de pouvoir à Paris. Moi, je trouve ça très beau.
Symboliquement, c'était
symboliquement, c'est
extrêmement puissant.
C'est extrêmement puissant. Et puis ensuite, il y avait la question aussi qu'ils ont défoncé les portes et ils sont pas rentrés en fait. Ils sont restés aux portes. Et ça, je trouve ça super intéressant.
Oui, ils ont rien saccagé. Absolument. En fait. Ils ont juste cassé la porte, mais après, ils sont pas rentrés.
Absolument. Et certains gilets jaunes qui étaient sur place expliquaient que, bon, déjà, il y avait la violence policière, ils allaient être. Enfin, c'était très grave s'ils passaient le pas. Mais ensuite, ils ne se sentaient pas soutenus par la plupart des Français. Ils n'arrivaient pas à trouver une légitimité de rentrer, en fait, dans ces espaces de pouvoir. Alors que ces lieux-là, c'est à nous, en fait, c'est au peuple. Et donc, j'ai trouvé ça super intéressant que ce soit un énième avertissement, qu'on passe pas le pas, en fait. Et je trouvais ça surtout très intéressant que les Gilets jaunes intègrent ces quartiers élitistes à Paris, les Champs-Élysées. Il y a un interviewé qui s'appelle Jordan dans mon film, qui a, il me semble, une trentaine d'années, qui est comédien et qui est d'origine béninoise et qui est comédien, ça je l'ai dit, mais qui vient d'Aubervilliers. Et il disait, mais les gars, au lieu de manifester en bas de chez nous, est-ce qu'on ne peut pas aller chercher les responsables où ils sont ? Allons chercher les coupables dans ces quartiers-là, en fait. Parce qu'ils sont à nous aussi et ils nous doivent des comptes.
Oui, mais ce que vous soulignez du coup, c'est effectivement qu'à force de ne pas être écouté, le Fenwick, mais les manifestations qui ont dégénéré entre guillemets en émeute, c'est, en fait, tout ça, c'est des formes d'interpellation du peuple, en tout cas d'une partie, des Gilets jaunes à l'époque, pour essayer de se faire entendre. Parce qu'en fait, les gens votent, ça ne sert à rien. Quand ils manifestent gentiment dans les cortèges syndicaux, ça ne sert à rien. Quand ils font des pétitions, ça ne sert à rien ou pas à grand-chose. Non, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'il y a un cadenas qui a été mis là sur la démocratie avec une caste tout en haut qui n'écoute pas les gens d'en bas. Et les gens d'en bas, c'est 99%. Hein. C'est la très grande majorité du pays. Et forcément, on a petit à petit en fait, des paliers qui sont montés dans les méthodes d'interpellation en fait, des gouvernants. Et on voit d'ailleurs que ces dernières années, depuis les Gilets jaunes, parfois, il y a eu des députés, des permanences des députés qui ont été saccagées, brûlées. Enfin, bon, on voit que le niveau de violence, il monte petit à petit. Et le pouvoir ne répond que par le mépris ou par la force. Et la force, ça a été évidemment la répression policière qui s'était abattue sur le mouvement des Gilets jaunes avec... Bon, les éborgnés, les mutilés qu'il y a eu dans le mouvement. Tous, je le rappelle toujours, les mutilés, les éborgnés sont tous innocents. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui a fait l'objet d'une condamnation pénale, ni même de poursuite d'ailleurs. Bon. Et vous avez voulu traiter ça dans le film. À un moment donné, vous interrogez un policier, alors qui est anonymisé hein, dans le documentaire. Mais ce qui est un signe aussi, hein, ce qui montre quand même que, parce qu'on l'a vu aussi ça, les quelques policiers qui ont osé à visage découvert témoigner pour dénoncer les dysfonctionnements qu'il pouvait y avoir dans la police, généralement ils se font sanctionner.
Bien sûr.
Hein, et ils ne peuvent pas rester. Donc là, ce policier témoigne sous couvert d'anonymat. Pourquoi vous avez voulu l'interroger ? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer à travers ce témoignage ?
Alors déjà, je ne me voyais pas traiter le mouvement des Gilets jaunes sans aborder le sujet des violences policières, parce que ça a été central. En Ensuite, le choix d'interviewer un CRS, c'est un choix qui était pour moi assez logique dans ma démarche. Je voulais donner la parole à tout le monde. Je voulais savoir ce qu'ils ressentaient vraiment. Et en fait, ça m'est arrivé d'aller en manifestation et je me suis toujours posé la question de... Quand je suis face à eux, face à ces forces de l'ordre, je me suis toujours demandé s'ils ressentaient, pour la plupart, un déchirement intérieur, de savoir s'il n'y a pas des jours où ils ont envie de passer de l'autre côté du bouclier et nous rejoindre, quoi, rejoindre le peuple. Et c'est là-dessus que je voulais l'interroger. Alors ça a été, comme je dis souvent, l'interview la plus compliquée à mener. Parce que lui, il est en service depuis, il me semble, 20-30 ans et qu'il a un discours bien préparé. Et que j'ai très vite compris qu'il n'allait pas bouger ses lignes. Donc c'était, j'ai dû l'avoir un peu à l'usure. Mais j'ai trouvé qu'il parlait de choses très intéressantes. Quand il dit... nous, on a les mêmes problèmes que le français lambda, en fait. L'inflation, les retraites, l'insécurité, c'est des choses qui nous touchent aussi. C'était pas du tout pour les défendre ou pour cacher tout ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes, les violences policières, mais c'était surtout pour leur donner la parole, parce qu'en fait, ils la prennent jamais. Ils veulent pas la prendre. J'ai l'impression qu'ils ont déjà un droit de réserve. Mais y a un moment très intéressant pendant mon interview que j'ai pas mis dans le film, malheureusement, parce que j'ai dû faire beaucoup de tri et de choix pendant la post-production. Mais je sais plus quelle question je lui pose. Et il me répond « Vous voulez que je réponde en tant que CRS ou en tant qu'homme ?» Et ça m'a... J'ai pas su quoi dire sur le moment. Je dis, bah, en tant qu'homme, et puis CRS, si vous voulez, tellement il y a une dissociation, en fait. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et... oui, je pense qu'en fait, moi, c'est vraiment ça qui me questionnait, c'est que... quand ils sont en manifestation, qu'ils reçoivent des ordres... dans leurs conditions, ils nous ressemblent tellement plus à nous, le peuple, qu'à ceux qui leur envoient des ordres plus haut, que je me dis, il y a bien un moment où ils sont complètement désalignés, en fait.
Alors, moi, ce que j'ai vu, et je pense que c'est ce que les Gilets jaunes ont vu pour la plupart, c'est qu'au début, il y avait effectivement ce tiraillement intérieur.
Bien sûr.
Et il y a eu des scènes où les policiers se sont joints aux gilets jaunes sur les ronds-points. Bon. Mais en réalité, assez rapidement, les ordres ont été donnés pour déjà aller déloger les ronds-points. Hein. C'est-à-dire que le rond-point des Vaches, moi, à Rouen, il a été cassé je ne sais pas combien de fois. Ils sont venus 30 ou 40 fois. Et à chaque fois, les gilets jaunes y revenaient, ils reconstruisaient la cabane. Bon. Et puis surtout, après, il y a le discours qui a commencé à imprimer. C'est-à-dire l'idée que mais c'est plus les gilets jaunes du début. Maintenant, c'est l'extrême gauche qui a infiltré, c'est les anarchistes, c'est le Black Bloc. En fait, c'est des séditieux, des factieux. Bon, on les a fait passer pour des terroristes, en fait. Alors que, bon, bah, moi, les gens avec qui je manifestais au début, c'est 3, 4, 5, 6 mois plus tard, c'était toujours les mêmes. Ils n'avaient pas changé. Hein. Mais on leur a installé cette petite musique. Et quelque part, je pense que pour continuer à supporter de faire leur métier, ils devaient adhérer. C'était plus simple d'adhérer au discours du gouvernement et du pouvoir. Parce que bon, si vous commencez à taper sur des gens avec lesquels vous êtes en empathie, c'est compliqué à gérer. Et donc je pense qu'en fait, quelque part, ils se dissocient. Et donc, on en arrive à « je réponds en tant qu'homme ou en tant que CRS ».
Ouais,
c'est qu'ils sont obligés de se dissocier pour supporter le rôle qu'ils doivent jouer. Quoi.
Absolument. Et le sujet de la violence, il est assez important dans mon film, ou en tout cas dans toutes mes réflexions politiques qui m'ont mené à faire... ce film, parce que je reviens à l'événement du Fenwick, mais pour moi, c'est super important. C'est... En fait, dans les interviews, je leur posais tous la question de, pour toi, aujourd'hui, est-ce que la violence, déjà, elle est légitime ? Est-ce qu'elle est nécessaire pour se faire entendre ? Quels sont nos moyens aujourd'hui ? Donc j'avais plusieurs réponses et ils n'étaient pas forcément tous d'accord, mais ce fait de décrédibiliser directement la violence et de l'enlever de toute substance politique, en fait, pour moi, c'est un discours de bourgeois et on est malheureusement, j'ai l'impression d'avoir été conditionné à penser que quand un mouvement est violent, il n'est pas crédible et donc il n'est pas entendable. Et pour moi, la violence, elle est ultra intéressante dans le sens où c'est enfin l'expression des corps. C'est enfin quelque chose qui sort, qui n'est pas retenu. Alors évidemment, je ne dis pas que c'est la solution, la meilleure solution, etc. Mais en tout cas, on s'éloigne enfin des codes bourgeois où il faut avoir un discours bien nuancé, bien posé, pas un mot au-dessus de l'autre, etc., être bien dans les règles. Et enfin, il y a quelque chose qui s'exprime, alors de manière très brute, très violente. Cette question-là de la violence, elle est pour moi centrale, surtout aujourd'hui, parce que, en fait, moi, personnellement, en tant que jeune femme, je ne sais pas où trouver l'issue de tout ça, quoi. Je crois plus en notre système démocratique, c'est très compliqué aujourd'hui d'y croire, d'ailleurs. Ouais, c'est compliqué.
Alors, le problème de la violence, c'est que... Bon, moi, je ne vais pas discuter de la légitimité de la violence, qu'effectivement, il faut toujours la raccrocher à la cause politique.
Bien sûr.
Qui sont les plus violents ? De mon point de vue, c'est assez clair que la violence est du côté du pouvoir. Non. Avant tout. Et que la violence du peuple, c'est une violence défensive, en réaction, et pas primaire. Le problème, stratégiquement, c'est ce que j'ai constaté, en tout cas, pendant les Gilets jaunes. C'est que malheureusement, la violence, elle met à distance les masses. C'est que les masses, elles, sont effrayées par la violence. Et donc, à chaque fois que j'ai eu à défendre dans des conférences ou dans des endroits, en tout cas, où il y avait plus le grand public, à chaque fois, j'avais la même chose. Non, mais la cause, elle est juste, mais il ne faut pas casser, il ne faut pas déranger, il ne faut pas... Voilà. À chaque fois, j'avais ça. Et donc, c'est tout le problème, en fait. C'est que, on aura beau défendre théoriquement la légitimité de la violence, les corps, pour le coup, des masses, eux, ça les effraie. Voilà. Et ça, c'est un peu le point bloquant qui a fait que le mouvement des Gilets jaunes, au final, n'a pas réussi à s'étendre au-delà de ce qu'il était. Et il était déjà, il avait un soutien extrêmement grand.
Très populaire.
Voilà. Mais il n'a pas réussi à faire rejoindre vraiment les troupes, à augmenter les troupes. Et ça avait été un des regrets des Gilets jaunes, évidemment. Et c'est ce qui a conduit, en partie, parmi les raisons, mais à l'essoufflement. Et justement, il y a un thème que vous abordez qui m'a aussi beaucoup parlé, qui est celui de la frustration, du sentiment d'impuissance qu'on a pu ressentir au bout d'un moment, et puis surtout de la solitude. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé pour beaucoup d'entre nous, c'est qu'on s'est retrouvés incompris par nos entourages, incompris de nous engager autant, de croire autant dans ce combat-là. Et finalement, les gens, on n'arrivait pas à expliquer, à faire sentir le pourquoi c'était si important de s'engager. Et donc, ça a été pour beaucoup assez coûteux politiquement.
Bien sûr.
Et c'est Marc, je crois, dans le film, qui en parle. C'était intéressant d'avoir cette séquence.
Bien sûr. Pour moi, c'était vraiment important de montrer d'un côté les bénéfices du mouvement et aussi les traces que ça a laissées sur certains Gilets jaunes. Et une personne, Yvan, que j'ai interviewé, qui m'a beaucoup touchée parce qu'il m'a dit « Je suis née le premier jour des Gilets jaunes ». Donc c'est-à-dire que il m'a expliqué qu'avant, il n'avait pas confiance en lui, il vivait beaucoup d'injustices, il ne comprenait pas d'où ça venait, il n'arrivait pas à trouver sa place dans la société. Et en fait, il m'a dit « la lutte m'a libérée, d'une certaine manière ». Alors évidemment, ça n'a pas été le cas de tous. Je pensais justement, comme vous l'avez dit, à Marc, qui, lui, s'est beaucoup engagé et qui, ça a entraîné une séparation avec sa femme. Tout son entourage s'inquiétait pour lui. Et je pense que ça a été le cas de beaucoup de gilets jaunes. Effectivement, ce genre d'engagement, ça bouffe, en fait. Ça nous grignote et on veut, je pense, toujours aller plus loin. Et je pense que le mouvement était tellement puissant. Il y avait tellement, je pense, de liens. Et les gens, à la base, se sentaient tellement seuls et ont trouvé des gens avec qui ils ont partagé des choses très fortes. Je pense que les manifestations, il y a beaucoup d'adrénaline, pardon. C'est presque parfois jouissif, c'est très fort en termes d'émotion. On passe partout, la peur, la joie. Et donc oui, effectivement, c'est tout le problème de l'engagement, en fait. Et c'est peut-être pour ça qu'on en est là en France. C'est que je pense que dès qu'on y met un pied, c'est dur de reculer et de... C'est pas à vous que je vais l'expliquer, d'ailleurs. Mais c'est vrai que même moi, dans ma propre expérience... Donc moi, j'étais pas gilet jaune, mais je suis en train de prendre un virage dans ma carrière professionnelle, un peu virage 180, où j'ai vraiment envie de m'engager et d'aller documenter les invisibles de la société, ceux dont on ne parle pas. Et ça m'anime beaucoup. Alors que moi, avant, je faisais de la pub, je faisais de la communication, j'étais dans la mode, donc j'étais vraiment dans un milieu très parisien d'ailleurs, mais complètement différent. Et donc là, je sens que j'ai vraiment envie de m'engager, j'ai vraiment envie de faire tous ces films, mais il va falloir que je me protège aussi, que ça me bouffe pas trop. Et en même temps, c'est tellement stimulant et c'est tellement, ça fait tellement du bien de rendre justice de telle ou telle manière, mais donc effectivement, je pense que c'est très compliqué de faire ces choix-là et d'avoir du recul sur cet engagement personnel.
Alors justement, ce que vous montrez, c'est la frustration, la colère qu'il y a pu avoir et le sentiment d'impuissance à la fin du mouvement ou quand le mouvement s'est essoufflé. Mais vous montrez aussi, parce que finalement, matériellement, rien n'a changé, quoi. Hein, je veux dire, voilà, les Gilets jaunes, ils ont obtenu 15-17 milliards à l'époque, ouais. C'était pas grand-chose. Bon, rien n'a vraiment changé. Et puis surtout, la vie politique française, après ça, a repris son cours, comme si le mouvement des Gilets jaunes n'avait pas existé. Et donc ça, forcément, c'est très désespérant. Mais vous montrez aussi la résilience et puis même l'espoir encore. Finalement, il y a beaucoup de gens là qui sont encore pleins d'espérance, pleins d'optimisme lucide, je dirais, dans votre documentaire. C'était intéressant aussi de montrer ça parce qu'on voit qu'il y a eu un cheminement qui a été fait par beaucoup de ces personnes que vous avez interrogées.
Bien sûr. Pour moi, c'était important d'aller rencontrer des gilets jaunes. C'est vraiment le point de départ de mon film. Et en même temps, j'avais pas envie de faire... J'avais envie de tourner le film vers le présent et le futur. Comme vous l'avez très bien dit dans votre introduction, je voulais prendre le pouls du présent. Et donc, en fait, tout le monde n'a pas été gilet jaune et je voulais donner la parole aux Français qui sont aujourd'hui en colère, qui, pour certains, regrettent de ne pas avoir rejoint les gilets jaunes ou pas. Mais c'était important d'aller voir tout le monde aussi. Et ça donne beaucoup d'espoir, en fait, parce que les gens sont très touchants et ils réfléchissent beaucoup. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, je pense. Il y a une conscience politique qui est en train de se mettre en place dans les jeunes générations aussi, et surtout, et je pense que c'est très important parce qu'on est les adultes de demain et il va falloir qu'on construise ce monde, qu'on le récupère un peu, qu'on fasse un effort créatif même, de reconstruction, de comment on va pouvoir sortir de tout ça et qu'est-ce qu'on veut pour demain. Et donc voilà, moi je vois beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour aussi. Tous les gens que j'ai rencontrés, ils nous ont accueillis les bras ouverts. C'était des moments, mais d'une richesse humaine magnifique. Donc effectivement, le climat actuel est très anxiogène, mais il y a beaucoup d'espoir, je pense. Et depuis que je commence à parler sur les réseaux sociaux de ce film, je reçois des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages tous les jours de gens qui veulent voir ce film. Ils sont partout en France et on ira les voir d'ailleurs. Moi, c'est important pour moi d'aller organiser des ciné-débats au fin fond de l'Ain ou de la Gironde parce qu'ils ont besoin, à travers, je pense, des projets comme ça, comme ce film-là, Fenwick, de se sentir représentés, de sentir que la parole se libère enfin et qu'il y a des gens comme vous et moi qui essayons de redistribuer la parole, de mettre un peu de justice là-dedans, quoi. Donc moi, j'ai beaucoup d'espoir. Je suis en même temps très affectée par tout ce que je ressens et toute l'actualité. Et en même temps, je suis très déterminée pour continuer le travail qu'on a commencé, quoi.
Alors d'ailleurs, je précise parce qu'on m'a déjà demandé quand allait être diffusé le documentaire. Mm-hmm. En fait, ce que vous m'avez répondu, c'est que ce que vous voulez faire, c'est des ciné-débats partout en France pour essayer justement de faire vivre le débat et de faire monter les prises de conscience. Mm-hmm. Mais a priori, bon, vous n'avez pas de diffuseur, vous n'avez pas de soutien institutionnel. Et donc, c'est un peu compliqué, de ce que j'ai compris, de trouver des cinémas. Donc, en gros, s'il y a des gens là qui voient cette émission et qui peuvent donner un coup de pouce ici ou là, je crois que ce serait bien.
Bien sûr, en fait, on a fait ce film de manière très indépendante, sans financement institutionnel, sans diffuseur. Je voulais avoir, moi, ma liberté éditoriale la plus totale. C'était très important pour moi de ne pas être dirigée. Et donc, c'est moi qui ai autoproduit, c'est moi qui ai financé. On avait lancé une cagnotte à l'époque, etc. Mais voilà. Et donc, du coup, j'ai pas de diffuseur. Donc, en fait, c'est moi qui fais tout. C'est moi qui démarche les cinémas. Et ils ont encore, j'ai l'impression, un peu de mal à me prendre au sérieux. Alors que je crois que le film est quand même vraiment réussi. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. Et en même temps, là où il y a beaucoup d'espoir, c'est que je reçois plein de messages de gens qui me disent « Moi, je suis à Bordeaux, comment je peux t'aider? Je peux démarcher les ciné à ta place, on peut faire appel à une association et tout. » Et tout est en train de se mettre en place via une intelligence collective qui est du...
C'est très gilet jaune, ça.
C'est très gilet jaune. Et merci les gilets jaunes d'avoir tout ce réseau national qu'on peut activer plus ou moins quand on veut, quoi. Ça, je trouve ça magnifique. Donc oui, effectivement, il y a des projections. J'ai pas encore vraiment de date, mais des projections qui seront communiquées via mes réseaux sociaux. Là, je cherche un cinéma à Paris urgemment parce que j'aimerais aussi le projeter ici. Mais c'est très compliqué à Paris, surprenamment, je sais pas. Donc voilà, je fais tout toute seule, c'est artisanal. On verra où ça nous mène, mais l'idée, c'est de faire un maximum de rencontres sur le terrain, aller voir les gens, ouvrir le débat, échanger. Parce que moi, je sais parler de mon film, mais l'idée, c'est que derrière, il y ait des vraies discussions autour de toutes ces questions-là, de l'engagement, de la politique, de tous les sujets traités dans le film.
Alors pour conclure, je voulais vous demander, parce que moi, ce qui m'a intéressé notamment, c'est votre âge, parce que pour quelqu'un comme moi et comme tous ceux qui se sont déjà engagés par le passé, on se dit, bon, est-ce que les jeunes vont prendre la relève? Est-ce qu'ils vont nous rejoindre? Et il y a une question notamment qui était particulièrement soulevée dans le mouvement des Gilets jaunes, qui était le référendum d'initiative citoyenne, qui, à mon sens, tenait moins au dispositif en tant que tel, parce qu'il en existe des milliers, que plutôt en l'expression d'une volonté de reprendre le pouvoir et de plus pouvoir décider par nous-mêmes. Comment la jeune génération, à votre avis, elle se situe par rapport à ça? Parce que de loin, moi je vais bientôt avoir 40 ans, je pourrais me dire, finalement, moi je regarde, ils sont sur TikTok, etc. je pourrais avoir un peu, ces réflexes un peu conservateurs, voire réac.
Un petit petit peu rec.
En réalité, je connais pas mal de jeunes et donc il y en a beaucoup où je vois un potentiel au contraire énorme. Voilà, je me fais l'avocat du diable en jouant le réac. Mais donc je vois bien qu'il y a les deux. Mais c'est vrai que pour des gens qui ne connaissent pas de jeunes, investis politiquement ou intellectuellement, bon, de loin, on peut se dire, on regarde les réseaux sociaux et on se dit, oulala, ça prend pas la bonne pente. Qu'est-ce que vous avez à répondre alors à ces gens?
Je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont pour la plupart tétanisés de ce qui se passe, en fait. Je pense que la plupart des jeunes sont conscients, beaucoup plus que... Par exemple, moi, j'ai l'impression d'être beaucoup plus consciente que mon père de ce qui se passe. Mais je pense que les jeunes sont complètement, comme je disais, tétanisés. Ils ne savent pas comment réagir. Ils voient pas d'avenir et je pense qu'on les pousse pas à prendre la parole. Certains ne trouvent pas aussi la légitimité. Toute la politique est très complexe. Moi, je vois beaucoup d'espoir en ma génération. Je crois qu'on est très conscient de ce qui se passe. On n'arrive juste pas à l'exprimer, mais j'ai l'impression qu'on s'informe mieux déjà. Nous, on regarde pas la télé, par exemple.
C'est un bon point.
Ou très peu. Mais je pense qu'on est très conscient mais effectivement, on n'est pas poussé à prendre forcément la parole et à initier des projets un peu engagés. Mais il faut que ça change. Et j'ai l'impression que, enfin, beaucoup de jeunes m'écrivent et me disent. Comment on peut t'aider? Je pense qu'ils se sentent, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais un peu inspirés par ce genre de projet. Et donc, je pense que c'est la machine va se mettre en place. Les choses bougent, vraiment. Je le sens.
Je crois qu'effectivement, il y a un motif d'espérer, c'est qu'à ma génération, par exemple, moi, je suis de 86, voilà, la préhistoire. je veux dire, on est l'une des dernières générations, je crois, à avoir cru dans le système. En fait, que si on respectait les règles du jeu, on accéderait au statut social, à la rémunération, etc. Et que ça donnait un sens à sa vie. Bon, et en fait, je crois qu'effectivement, les jeunes générations, elles ont été tellement laminées par les conditions matérielles d'existence qui sont celles d'aujourd'hui, le fait que tout est bloqué, que tout est compliqué, qu'effectivement, elles sont sorties, en fait. Elles ne veulent plus jouer les règles du jeu pour beaucoup d'entre elles.
Absolument. Je pense que effectivement, on ne veut plus jouer à ce jeu-là. Et par exemple, un exemple très important, notre rapport au travail, il n'est plus du tout le même. Nous, le travail, c'est un outil pour atteindre un bien-être. Mais ce n'est plus le travail comme objectif de vie. Ou en tout cas, que si c'est, y a un rapport de passion avec ce qu'on fait. Mais on veut plus se faire exploiter. Nous, si notre contrat il se finit à 17h, à 17h01, on part. Et il y a toutes ces questions-là aussi, moi, je pense qu'on réfléchit beaucoup. Et le fait que tout est en train de s'effondrer, que ce soit politiquement, économiquement, on n'a plus du tout envie de jouer à tout ça. Je pense qu'on est en train d'atteindre un point de non-retour que nous, les jeunes, on sent. Et donc, on essaie de faire comme on peut. Hein.
et pour réussir, il faudra faire l'union. C'est d'ailleurs votre conclusion dans le documentaire. La conclusion, si elle existe, sera collective. C'est la citation. Moi, j'ajouterais, parce que c'est la citation qui m'accompagne depuis quelques temps maintenant, un mot de Bertolt Brecht, ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu.
Absolument.
Voilà. Donc on ne sait pas si on va gagner, mais ça donne déjà un sens à sa vie d'essayer, et il n'y a qu'en essayant qu'on saura si ça peut fonctionner. Merci Léna pour cet entretien.
Merci
beaucoup.
C'était
vraiment intéressant, et vraiment je précise que moi, évidemment, le documentaire m'a particulièrement touché et parlé. Voilà, j'invite tous ceux qui ont l'occasion de le voir, de le faire. Merci à vous.
Merci beaucoup.